africaine de RFI, vous y suivrez aussi 3 heures plus tôt, Algérie et Nigeria, et la CAN qu'on continue de suivre bien sûr sur RFI.fr. 8h10 en temps universel.
Radio G 101.5 FM.
Court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres, ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis, à 9h10, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bienvenue et bon début de samedi aux auditorices. Nous sommes cette semaine toujours sur le roman Vox de Christina Dalcher. C'est un roman dans lequel la femme a été réduite au silence, avec l'aide de bracelets qui envoient une décharge électrique pour chaque mot après le centième prononcé de la journée. Et nous suivons le parcours d'une femme qui, avant de se voir voler sa voix, rendait celle à ceux qui l'avaient perdue par maladie. Elle essaye tant bien que mal de survivre dans un monde où elle ne peut qu'à peine entendre la voix de sa propre fille et tente de la protéger coûte que coûte. Si vous n'avez pas encore écouté la première émission, je vous invite à la retrouver sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre, dès maintenant. On se retrouve après ce nouvel extrait. Bonne écoute sur Radio G. Chapitre 7. La première fois qu'elle hurle, je crois rêver. Patrick ronfle à côté de moi. Il a toujours dormi profondément. Et son dernier mois de boulot l'a mis sur les rotules. Donc il ronfle, ronfle, ronfle. Ma compassion s'est déjà asséchée. Laissez-les travailler 12 heures par jour pour compenser l'inévitable coup de mou engendré par la disparition de presque la moitié de la main-d'œuvre. Laissez-les s'enterrer sous la paperasse et l'absurdité administrative pour ensuite se traîner jusqu'à chez eux pour y dormir d'un sommeil de mort et se réveiller le lendemain pour recommencer. Qu'est-ce qu'ils espéraient ? Ce n'est pas la faute de Patrick, je le sais, du fond du cœur, du fond de mon âme. Avec 4 enfants, on ne peut pas se passer de son salaire. Pourtant, je n'arrive plus à ressentir la moindre compassion pour lui. Elle hurle à nouveau, pas un cri inarticulé cette fois, mais un déluge de mots à vous glacer le sang. Maman, ne les laisse pas me prendre. Je saute du lit dans un maelstrom de draps et de couettes, la chemise de nuit empêtrée dans les jambes. Mon tibia heurte violemment le coin de la table de nuit, en plein sur l'os. Ce coup-là va saigner, me laisser une cicatrice, mais je n'y pense pas. Je pense à celle que j'aurai si je n'arrive pas à temps dans la chambre de Sonia pour la calmer. Les mots continuent de se déverser. Ils dévalent le couloir dans ma direction, comme des fléchettes empoisonnées, soufflées par un million de sarbacanes hostiles. Chaque syllabe me pique, chaque syllabe transperce ma peau, autrefois rugueuse, avec la précision d'un scalpel de chirurgien. Dirigée droit sur mes entrailles, combien de mots a-t-elle prononcé ? 50 ? 60 ? Plus ? Plus ! Oh mon Dieu ! Patrick est maintenant réveillé, livide, les yeux écarquillés. Une image tout droit sortie d'un film d'horreur dans lequel le héros tomberait nez à nez avec le monstre tapis au fond du placard. J'entends ses pas qui me talonnent au même rythme que le sang qui pulse dans mes veines. Il crie « Fonce, Jean, fonce !» Je ne me retourne pas. Les portes s'ouvrent tandis que je les franchis à la volée. D'abord celle de Steve, puis celle des jumeaux. Quelqu'un, peut-être Patrick, je ne sais pas, allume les lumières du couloir. Et 3 visages flous, blêmes comme des revenants, apparaissent dans un coin de mon champ de vision. Évidemment, la chambre de Sonia est la plus éloignée de la mienne. « Maman, ne les laisse pas me prendre, ne les laisse pas me prendre, ne les laisse pas !» Sam et Léo se mettent à pleurer. Pendant un instant, une pensée m'effleure. Mauvaise mère. Mes fils sont en détresse et je les ignore. Je les dépasse, je les délaisse sans prendre soin d'eux. Je réparerai les dégâts plus tard, si je suis encore capable de prendre soin de quelque chose. Encore 2 enjambées et je suis dans la petite chambre de Sonia. Je me jette sur son lit, cherche sa bouche d'une main, je dois la cadenasser. Ma main libre sonde à tâtons sous les draps à la recherche du bracelet métallique qui enserre son poignet. Sonia gémit contre ma paume. Je vois son réveil du coin de l'œil. 11h30. Je n'ai plus un mot pour encore une demi-heure. Patrick, j'articule silencieusement lorsqu'il allume la lampe au-dessus de nos têtes. 4 paires d'yeux fixent la scène qui se déroule sur le lit de Sonia. Elle doit dégager une violence digne d'une sculpture grotesque. Mon enfant qui se tortille pour m'échapper, sa chemise de nuit translucide de sueur, et moi, vautré sur elle, qui étouffe ses pleurs en la clouant sur le matelas. Quel horrible tableau on doit former, l'infanticide incarné. Le sang de mon compte mot luit sur la bouche de Sonia. Je me tourne vers Patrick, je l'implore, muette, sachant que si je parle, si la lettre passe à 101, elle partagera inévitablement le choc de la décharge. Patrick me rejoint sur le lit, dégage ma main de la bouche de Sonia, la remplace par la sienne. Chut, mon bébé, chut. Papa est là. Papa ne laissera personne te faire de mal. Sam et Léo entrent dans la chambre. Ils se bousculent pour approcher et soudain, il n'y a plus de place pour moi. La mauvaise mère devient une mère inutile. Les 2 mots rebondissent dans mon crâne. Merci, Patrick. Merci, les garçons. Je ne les déteste pas. Je me répète que je ne les déteste pas. Mais parfois, je les déteste. Je déteste quand les mâles de ma famille disent à Sonia combien elle est belle. Je déteste voir que ce sont eux qui la consolent quand elle tombe de sa draisienne, qui lui inventent des histoires avec des princesses et des sirènes. Je déteste devoir les regarder et les écouter. C'est une épreuve de me rappeler que ce ne sont pas eux qui m'ont imposé ça. Et puis merde. Sonia s'est calmée, le danger est passé, mais je remarque en sortant à reculons de la chambre que ses frères prennent soin de ne pas la toucher, au cas où elle aurait une autre crise. Dans un coin du salon, je trouve le bar. Une solide desserte en bois avec son assortiment de bouteilles à l'effet anesthésiant. La vodka et le gin transparent, le scotch et le bourbon caramélisé, le fond de curacao bleu cobalt qu'on avait acheté il y a quelques années pour un pique-nique polynésien. Je finis par trouver ce que je cherche, dissimulé à l'arrière, le grappa, l'alcool de contrebande italien. Je l'attrape, m'empare aussi d'un petit verre à pied et emporte les 2 sous le porche à l'arrière de la maison, en attendant que l'horloge sonne minuit. Je ne bois plus tant que ça ces derniers jours. C'est devenu trop éprouvant de siroter un gin glacé en repensant aux soirées d'été où Patrick et moi nous asseyons épaule contre épaule sur le balcon de notre premier appartement, de la taille d'un timbre-poste, à discuter de mes demandes de bourse et des critères de sélection, ou de ces horaires infernaux d'interne à l'hôpital de l'université de Georgetown. En plus, j'ai peur d'être saoul, peur que l'alcool m'échauffe et me donne du courage au point d'en oublier les règles ou de les bafouer. Le premier verre de grappa descend comme une boule de feu. Le second est plus doux, agit comme un baume. J'en suis à mon 3e lorsque l'horloge annonce la fin d'aujourd'hui et un morne ding à mon poignet gauche lui fait écho pour m'octroyer de nouveaux 100 mots. Comment vais-je les utiliser? Je repasse la porte grillagée, avance à pas feutrés sur le tapis du salon, replace la bouteille sur le bar. Lorsque j'entre dans sa chambre, Sonia se redresse, un verre de lait entre les doigts. Soutenue par la main de Patrick, les garçons sont retournés dans leur lit. Je m'assois près de Patrick. Tout va bien, ma chérie. Maman est là. Sonia me sourit. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'embarque la bouteille et je descends sur la pelouse. Je passe les roses que Madame Ray a sélectionnées et plantées avec soin. Il fait noir, le jardin sent bon, là où ils ont fleuri les lilas. Il paraît qu'il faut parler aux plantes pour qu'elles restent en bonne santé. Si c'est vrai, alors mon jardin est moribond. Ce soir, je n'en ai rien à cirer des lilas ou des roses ou de quoi que ce soit. Mon état d'esprit est tout autre. « Bande d'enfoirés !» je beugle et je recommence. Une lumière vacille dans la maison des King. Le store bouge avant de s'ouvrir. Je m'en fous. Je m'en fous de réveiller tout le quartier tant qu'ils m'entendent depuis la colline du Capitole. Je crie encore et encore et encore jusqu'à ce que ma gorge soit desséchée. Je m'envoie une nouvelle rasade de grappa. J'en renverse un peu sur ma chemise de nuit. « Jean !» La voix vient de derrière, suivie d'un claquement de porte. « Jean, va te faire foutre ou je continue !» Je réponds. Brusquement, je n'ai plus rien à faire de la décharge ou de la douleur. Si je continue de gueuler ma colère, si je noie la sensation à coups de mots et d'alcool, Est-ce que l'électricité va continuer de m'attaquer? Est-ce qu'elle va me mettre KO? Sans doute que non. Il ne nous tue pas, pour les mêmes raisons qu'il n'autorise pas les avortements. Nous sommes devenus un mal nécessaire, des objets que l'on baise sans les écouter. Patrick est en train de gosiller. Jean, ma chérie, arrête, je t'en supplie, arrête! Une autre lumière apparaît dans la maison des Kings. Un grincement de porte qui s'ouvre. Bruit de pas. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, McLellan? Il y en a qui essaient de dormir. Voilà le mari, évidemment, Evan. Derrière ses stores, Olivia continue de me regarder, me donner en spectacle au beau milieu de la nuit. Va te faire mettre, Evan! Je lâche. Evan nous avertit qu'il va appeler la police, mais en des termes beaucoup moins polis. La lueur à la fenêtre d'Olivia disparaît. J'entends des cris, certains sont les miens, et Patrick fond sur moi, lutte avec moi dans l'herbe humide, m'implore et me cajole, et j'ai le goût des larmes sur ses lèvres lorsqu'il m'embrasse pour me calmer. Mon premier réflexe consiste à me demander s'ils apprennent aux hommes ces techniques, si on a remis aux maris, aux frères, aux pères, aux fils des brochures explicatives le jour où on nous a menottés avec ces bracelets argentés. Non, ils ne se soucient pas assez de nous pour ça. Laisse-moi. Je suis dans l'herbe, la chemise de nuit collée à moi comme une peau de serpent. C'est là que je prends conscience que ma respiration siffle et que les pulsations se rapprochent. Patrick agrippe mon poignet gauche, vérifie le compteur. T'as dépassé, Jean. J'essaie de me libérer de son étreinte, un geste aussi désespéré que l'est mon cœur. L'herbe est amère dans ma bouche, je me rends compte que je suis en train de mâcher de la terre. Je sais ce qu'est en train de faire Patrick, je sais qu'il est prêt à absorber la décharge avec moi. Alors je reste silencieuse et je le laisse me ramener à l'intérieur, tandis que le gémissement des sirènes se rapproche. Patrick peut leur parler, moi je n'ai plus de mots. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman Vox de Christina Dalcher. Chapitre 8. Stupide, stupide, stupide. Le regard vide de Sonia pendant que je l'emmène sous la pluie jusqu'à l'arrêt de bus est le pire des reproches. Ma punition pour ma tirade imbibée de grappa d'hier soir. Bien pire que la leçon de morale que les agents machin et truc m'ont assenée pour avoir troublé la quiétude du voisinage. C'est la première fois que je ne peux pas lui dire que je l'aime avant de la laisser partir à l'école. Je lui envoie un baiser et je le regrette immédiatement quand je la vois lever une petite main à ses lèvres pour m'en envoyer un en retour. L'œil noir de la caméra de la porte du bus m'examine. Elles sont désormais partout, ces caméras, dans les supermarchés et dans les écoles, dans les salons de coiffure et les restaurants, prêts à capturer le moindre geste qui pourrait s'apparenter à un signe de langage, même la forme la plus rudimentaire de communication non verbale. Car après tout, les conneries qu'ils nous ont fait avaler n'ont rien à voir avec le fait de parler. Je crois que c'était un mois après l'arrivée des comptes mots, au rayon fruits et légumes du supermarché Safeway ou ailleurs. Je ne connaissais pas les femmes en question, mais je les avais déjà croisées dans le magasin. Comme toutes les nouvelles mères du quartier, elles se déplaçaient par paires ou en groupe, faisaient leurs courses ensemble pour s'entraider au cas où l'un des bébés se mettrait à pleurer au moment de passer à la caisse. Ces deux-là étaient vraiment très proches, fusionnelles. Je comprends maintenant que c'est justement le fait qu'elles étaient si soudées qui posait problème. Vous pouvez retirer beaucoup de choses à quelqu'un. Son argent, son travail, sa curiosité intellectuelle, qu'importe. Vous pouvez même lui retirer les mots, mais vous ne parviendrez pas à changer l'essence de ce qu'il est. Privez-le de la camaraderie et brusquement, ce n'est plus la même chose. Je les ai observées, ces femmes, à surveiller leur bébé à tour de rôle, à pointer du doigt leur cœur ou leur tempe en un jargon silencieux. J'ai vu leurs doigts communiquer à côté de la pyramide d'orange. Je les ai vues éclater de rire en ratant une lettre du langage codé qu'elles n'avaient sans doute pas utilisée depuis la sixième, quand elles s'échangeaient des messages sur Kevin, Tommy ou Carlo. Je les ai vus regarder, terrifiés, les trois hommes en uniforme qui se sont approchés. J'ai vu la pyramide d'orange s'écrouler quand les femmes ont essayé de résister. Et je les ai vus se faire escorter jusqu'aux portes automatiques. Elles et leur petite fille. Toutes les quatre, le poignet cerné d'un bracelet métallique. J'ai pas demandé de leurs nouvelles, évidemment. Je n'avais pas à le faire, je n'ai jamais revu ces femmes ni leurs filles depuis. « Salut !» a lâché Sonia avant de sauter dans le bus. J'ai fait demi-tour jusqu'à la porte de la maison. J'ai secoué mon parapluie sous le porche et l'ai mis à sécher. La fente de boîte aux lettres verrouillée ressemble à un rictus. Qu'est-ce que t'as encore fichu, Jean ? La fourgonnette du facteur s'arrête au coin de la rue et il en sort, et mailloté dans un de ces imperméables en plastique transparent que la poste fournit quand la météo est capricieuse. On dirait qu'il a sur le dos un grand préservatif. Avec ma copine, Anne-Marie, on avait l'habitude de se moquer du facteur les jours de pluie, de ricaner en voyant son short et son petit casque colonial ridicule pendant l'été, ou ses bottes en caoutchouc qui glissaient sur la neige fondue pendant l'hiver. On riait surtout de son imperméable en plastique, qui nous rappelait l'accoutrement des petites vieilles. C'est le même aujourd'hui. Certaines choses ne changent pas, même s'il n'y a plus de factrice. Je suppose que c'est un énorme changement. « Bonjour, Madame McClellan », lance-t-il en pataugeant sur le trottoir devant la maison. « Beaucoup de courriers ce matin. » Je ne rencontre presque jamais le facteur. Il a le chic pour venir lorsque je suis sortie faire les courses ou en train de prendre ma douche. De temps en temps, si je suis dans la cuisine pour me préparer mon deuxième café, j'entends le bruit mat du métal de la boîte aux lettres qui se referme. Je me demande s'il le fait exprès. Je lui réponds d'un sourire et tends ma main juste pour voir comment il va réagir. « Désolée, madame, je dois mettre le courrier dans la boîte. Le règlement, vous savez. » Ils appliquent le règlement, sauf si Patrick est dans les parages le samedi matin. Là, notre facteur qui applique scrupuleusement le règlement remet le courrier en main propre à Patrick. Pour éviter à mon mari de devoir s'embêter à aller chercher les clés, je suppose. Je regarde la boîte aux lettres avaler un paquet d'enveloppes avant de refermer sa gueule. Passez une bonne journée, Madame McClellan, si vous y arrivez avec ce temps. Je ravale la réponse automatique qui était montée dans ma gorge. Et là, il cligne des yeux trois fois, en fermant à chaque fois les yeux de manière absurdement longue, tel un battement de cils mécanique. J'ai une femme, vous savez, et trois filles. Les derniers mots sont lâchés avec un soupir par le facteur. Comment s'appelle-t-il déjà? Monsieur Powell, Monsieur Ramsay, Monsieur Banachi? Je suis gênée de ne même pas connaître le nom de celui qui nous rend visite 6 jours par semaine. Il me refait encore le truc des yeux, non sans avoir vérifié par-dessus mon épaule la caméra du Porsche et s'être placé dans mon alignement pour que mon corps l'éclipse. Suis-je le soleil ou suis-je la lune? Sûrement Pluton, la planète qui n'en est pas une. Et là, je le reconnais. Mon facteur est le fils de la femme qui a sans doute été le premier être humain à recevoir un vaccin anti-aphasie, Delilah Ray. Pas étonnant qu'il ait été si inquiet de mes honoraires l'année dernière. En tant que facteur, il ne pouvait pas mettre beaucoup. Mais je ne lui avais évidemment rien fait payer. D'autant que mon sérum, Wernicke X5, n'avait même pas encore franchi l'étape des tests. J'avais bien aimé cet homme. Il avait fait preuve d'une grande sensibilité lorsqu'il m'avait amené Delilah Ray, ainsi que d'un émerveillement enfantin en voyant la potion magique que je proposais d'injecter dans le cerveau de sa mère. Les membres de la famille des autres patients étaient restés bouche bée d'admiration. Mais cet homme était le seul à avoir fondu en larmes quand je lui avais décrit mes attentes, lui expliquant que si le test fonctionnait, la vieille dame pourrait articuler ses premiers mots cohérents après la confusion linguistique causée par une attaque. Dans les yeux de cet homme, j'étais plus qu'une énième scientifique ou une thérapeute du langage dans la longue file des diagnosticiens et des bons samaritains. J'étais Dieu et je pouvais ressusciter les voix disparues. J'étais... Dans ce roman, tout est fait pour éduquer les jeunes filles à ne plus parler et pour apprendre aux femmes leurs nouvelles conditions de vie. Vox, de Christina Dalcher, est un peu une version moderne de La Servante écarlate de Margaret Atwood. J'aurais pu présenter ce dernier, mais Vox étant moins un classique, il m'a semblé que ce serait une découverte pour plus d'auditeurices. Et mon objectif est avant tout de faire découvrir. Il est disponible chez Nil Éditions ou en poche chez Pocket, dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez toujours retrouver les 2 émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau roman qui ne sera pas une grande découverte pour ma grand-mère, car ce thriller vient de sa bibliothèque personnelle. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
www.radio-g.fr.